Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 2 février l'an 2000, à Saint-Jean-d'Arc.
Petite question. De toute façon, je compte revenir là-dessus. Pouvez-vous nous dire quelque chose du rapport entre la substance et la matière? Puis-je parler de substance pour ce qui est non-vivant? Enfin, dernière question, est-il juste de dire que la substance est principe de l'être, comme l'âme est principe de vie pour la substance, pour le vivant? Oui. Bon. Alors, prenons les trois points successifs. Je voulais revenir sur le cours d'hier parce que quand je parle de la substance en tant que sujet, quand je parle de la substance par rapport à la substance première et à la substance seconde, le rapport n'est pas du tout le même. Il faut bien le saisir. Le rapport à la substance sujet, c'est tout le problème de l'individuation. Et le problème de l'individuation, c'est le problème de savoir le rapport de la substance avec la cause matérielle. Quel est le lien qui existe entre substance et cause matérielle ? C'est important. Ce problème est un problème classique en théologie. Saint Thomas l'a traité très longuement. Toute l'individuation. Aristote n'en a pas parlé, l'individuation. Oui, il en parle. C'est sous-jacent. C'est bien évident. Les rapports entre la substance et la matière, Aristote sait très bien ce que c'est. Paralbos sur le rapport de l'âme et du corps. Mais il n'a pas parlé autant que Thomas d'Aquin par rapport à la par rapport à l'individuation. Et c'est ça dont je désire vous parler maintenant. On a saisi la substance par mode de l'individuation, par mode de l'induction. On l'a saisi comme principe. Un principe est cause, peut être cause. Tous les principes ne sont pas cause, mais le principe peut être cause. Il est premier, comme la cause est première. Première dans l'ordre de l'être. Puisque c'est dans l'ordre de l'être qu'on cherche, de l'être comme, de l'être en tant qu'être. Et on essaie de préciser comment la substance est principe propre de ce qui est, selon la détermination, selon l'ordre de la cause formelle. Je peux, une fois que j'ai saisi cela, revenir sur le rapport qui existe entre la substance et la matière, pour essayer de comprendre que la substance permet à la matière d'être un sujet substantiel, c'est-à-dire fondamental. Et ça qui est intéressant à voir. Et ça, c'est très intéressant à voir pour comprendre ce que c'est que le marxisme. C'est une dialectique matérielle. Et une dialectique implique toujours une forme. Il ne peut pas y avoir de dialectique sans forme. Puisqu'il y a des oppositions. Et des oppositions qui peuvent être substantielles Et ce qui arrive, quand on regarde le point de vue de la substance relatif à la matière, je regarde le point de vue de la substance donc comme principe substantiel, comme principe radical, premier, propre de l'être, et par rapport à la matière, comment ce principe peut déterminer la matière, et comment ce principe, dans certains cas, détermine la matière. Dans le cas de l'âme en tant que substance, l'âme détermine le corps. Ce n'est pas le corps qui détermine l'âme. Ce que diraient les marxistes et ce que diraient les psychologues, au moins certains, les psychologues qui veulent la métapsychologie, c'est la matière qui détermine la substance. Alors que la matière ne peut que conditionner le point de vue de la substance. Et c'est justement ça l'individuation. C'est pas commode à comprendre, mais c'est très important. Parce que ça montre comment la psychologie ne peut jamais être philosophique. Elle ne saisit pas les principes. Elle saisit les conditionnements. Et toujours les conditionnements. Vous pouvez n'importe quel livre de psychologie, vous verrez que ce n'est pas des principes. La psychologie cherche des lois, comme la science. Elle ne cherche pas du tout à saisir des principes, des lois, c'est-à-dire le fait que la relation entre telle détermination et telle autre détermination se retrouve toujours ensemble. À partir de là, on peut émettre une certaine loi. Si A existe, B existera. Alors, si je suis en présence de A, j'attends B, parce que je sais qu'il y a une dépendance entre les deux. Et ça, c'est pas commun de bien saisir ce rapport entre l'aspect formel de la substance, premier dans l'ordre de l'être, selon la cause formelle. Vous ne dites pas selon la cause matérielle. Alors, je me pose le principe, je me pose la question, y a-t-il un premier dans l'ordre de la cause matérielle? C'est intéressant à se poser la question. Parce que c'est la question qu'on doit se poser par rapport au marxisme, par rapport à toute philosophie où la cause matérielle est première. Est-ce que la cause matérielle n'est pas toujours seconde? La cause matérielle est toujours seconde, mais il n'y a donc pas de principe propre à la matière. Il y a une nature selon la matière. Mais une nature selon la matière, c'est un premier dans l'ordre du devenir. Alors oui, mais pas dans l'ordre de l'être. La matière ne me dit rien de l'être comme matière, sauf qu'elle conditionne l'être. Qu'elle permet à l'être d'avoir telle manière d'exister, telle manière particulière d'être. Donc, la matière peut être un élément substantiel du conditionnement, mais pas plus. Elle ne peut pas être principe. Cherchez bien, c'est très important de voir ça. C'est important pour votre intelligence et par le fait même pour votre vie. C'est radical. Purifier notre intelligence de la matière,
C'est important.
Libérer l'être. S'il y avait un premier dans la matière, nécessairement Dieu serait matière. Parce que Dieu est premier. Premier au sens absolu, dans l'ordre de l'être. Donc ça va très loin, vous voyez. Posez-vous la question, mais vraiment, posez-vous la question, parce que c'est on est encombré de cela aujourd'hui. C'est peut-être la purification la plus radicale que la métaphysique opère dans notre intelligence. De voir que la matière ne peut pas avoir de principe propre. Elle ne donne pas un principe propre, elle n'est pas un principe propre. Mais elle conditionne, parce qu'elle est pure puissance. Si la matière est pure puissance, elle est radicalement ce qui conditionne tout. C'est toujours la puissance qui nous conditionne. Partout où il y a en vous des réserves de potentialité, et elles sont nombreuses, les réserves de potentialité. C'est pour ça que, oui, quand on chatouille certains êtres, ils se mettent tout de suite en colère. C'est des réserves de potentialité, ça. C'est caché. C'est leur foulement, quoi. Tout leur foulement. Voilà. C'est toujours potentiel. Et le refoulement radical, c'est la matière, vous voyez. C'est-à-dire, c'est la matière qui permet un refoulement radical. Et des foulements très cachés, très, très, très primitifs. Mais c'est pas des principes. Ça ne détermine pas. Les refoulements ne déterminent pas, mais conditionnent. Et conditionnent radicalement. Quand c'est quelque chose de substantiel, c'est-à-dire la matière. C'est pour ça que c'est très important, et je suis très content qu'elle ait posé la question. Je suis très content, j'avais pensé, c'est pas la question qui m'a fait parler de l'individuation, mais je suis très content qu'elle ait posé la question. Parce que c'est exactement ça. Quel rapport entre la substance et la cause matérielle? Réfléchissez là-dessus. Parce qu'il faut que vous le découvriez vous-même. Autrement, vous direz, oh, il exagère. C'est facile de dire que le professeur exagère. Je veux bien que vous le disiez. C'est très vrai. On exagère toujours. Au point de vue métaphysique, on est tous de Marseille. C'est évident. Et on exagère. C'est pour ça que c'est difficile de faire de la métaphysique à Marseille. C'est le conditionnement. Et on se sert du conditionnement comme d'un principe. C'est très important de distinguer le pose du TSD. C'est même capital, ça. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est très difficile. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, on les compte sur les doigts. Ce qui vraiment distingue le pose du TSI. C'est très curieux. On pose des questions méchantes. On fait passer des examens aux gens, sans dire que c'est des examens, pour voir s'ils ont distingué le pose du TSI. Vous verriez que la plupart du temps, ils ne l'ont pas distingué. La plupart du temps, on considère le pose radical comme déterminant. Et non pas comme conditionnant. Bien, c'est le cas des rapports de la substance avec la matière. Et là, vous saisissez le petit lapin dans son terrier. Et vous pouvez lui mettre du sel sur sa tête pour le prendre. Distinction entre ce qui est premier selon la détermination et la matière. C'est un choc extraordinaire de voir ce lien entre ce qui est premier dans l'ordre de la détermination et ce qui est la cause matérielle, pure puissance. Détermination et pure puissance. Quand la détermination détermine la pure puissance, c'est-à-dire quand elle touche, quand elle est en relation avec lui, avec la pure puissance, il y a le phénomène d'individuation. Nous sommes tous individués. On est des individus, c'est bien vrai qu'on est un individu. Et chacun d'entre nous, nous avons notre manière d'être. Et jusqu'au petit doigt. Manière d'être. Et petit doigt de pied. C'est encore mieux. Et jusqu'à nos cheveux. Quand le Père Céleste n'est pas indifférent à tous les cheveux qui tombent, c'est ça que ça veut dire. Et que Dieu n'est pas celui qui regarde uniquement les principes, mais il regarde l'individu. Il y a un regard de sagesse vis-à-vis de la cause matérielle et vis-à-vis de l'individu. Je dois être très attentif à ça. Et Platon, il sépare la substance, premier selon la forme, de la matière. Et c'est là l'erreur fondamentale de Platon. Il n'y a pas d'individuation. Et donc Scott, un peu la même chose. Bien qu'il soit bien heureux. Ça ne touche pas sa foi. C'est très curieux, ça. Parce que pour Don Scott, la forme est individuelle. Elle est concrète. Par elle-même. Elle n'a pas besoin de la matière pour l'individuer. Pour la rendre concrète. Parce que l'individuation, il y a quelque chose de bon. C'est que l'individuation montre ce que c'est que le concret. Et pour nous, toutes les réalités qu'on voit, elles sont concrètes. Quand vous allez au marché, que vous achetez une carotte, elle est concrète, cette carotte. C'est celle-là que vous voulez, c'est pas l'autre. Et si on se trompe, ah oui, ah non, c'est celle-là que je veux. Ça veut dire ça, c'est le regard concret de telle carotte et non pas de telle autre carotte. Elle est individuée. Et vous-même, vous êtes individué dans tout votre être. Toute votre substance, votre âme, elle vous individualise à travers votre corps. Et à travers votre corps, vous êtes parfaitement individualisé, vous êtes concret. C'est pas votre âme qui est concrète. Non. C'est votre âme est au-dessus. Elle est unique, mais elle n'est pas concrète, elle n'est pas individuée. Elle est unique, c'est pas la même chose. Elle a quelque chose de particulier. Donc, comprenez bien que la pure puissance n'a jamais de premier. Et le contact du principe propre de la forme avec la cause matérielle forme l'individu. J'aime mieux de voir comme ça. Saint Thomas, en théologien, s'arrête beaucoup au problème de l'individuation. Parce que mon âme est créée dans mon corps. Donc mon âme est toujours individuée. Et je baptise un individu. Je ne baptise pas l'âme. Je baptise un individu, concrètement, par le sacrement. Et moi, je comprends que l'Église se soit intéressée énormément à qu'est-ce que c'est que l'individu. Alors, saint Thomas le regarde, lui, en théologien. Et il précise que le principe d'individuation, il parle de principe, c'est pas tout à fait juste. En philosophie, en théologie, juge qu'on soit, il a parfaitement le droit de le faire. Mais en philosophie, on doit distinguer. Il n'y a pas de principe d'individuation. C'est de l'ordre du comment. Ce n'est pas un principe. Saint Thomas précise que le principe d'individuation, c'est la matière, c'est la quantité individuée, la quantité qui a été déterminée par la forme et qui, elle, a quelque chose d'unique. Je suis séparé de mon voisin, je suis moi-même, parce que je suis un individu autre que lui. Vous êtes individu par rapport à votre voisin, et votre voisin vous regarde comme un individu. C'est-à-dire qu'on est quelque chose et on est distinct. Qu'est-ce qui vous individualise ? Au plan théologique, je comprends très bien que saint Thomas ne dit pas que c'est l'âme, il dit que c'est la quantité. Alors au début, ça vous choque que le principe d'individuation soit la matière et la quantité. La quantité présuppose toujours la matière. Elle vient de la matière. Et pourtant, je vois ce que ça veut dire. Puisque il n'y a pas de principe du côté de la pure puissance, il y a un commencement. Il y a un début qui se manifeste par la quantité. Donc, ce qui vient modifier le principe et qui lui permet d'être quelque chose de concret, un principe n'est pas concret. Un principe, vous ne touchez pas. Vous le saisissez par l'intelligence, mais vous ne pouvez pas le toucher concrètement. C'est la matière avec la quantité. La quantité, elle, manifeste comment se réalise ce conditionnement. Ce conditionnement se réalise à travers la quantité. Et par la quantité, pas la matière directement, mais la matière quantifiée. Et là, l'individu joue. C'est pour ça que l'individu, il a son poids, il a sa grandeur, il a sa petitesse, il a ce fait qu'il est de tel poids. Ça, c'est l'individu, c'est la quantité. C'est pas l'âme. Vous dites, je suis l'âme lourde. Ah non, on n'est pas l'âme lourde, c'est pas l'âme qui est lourde. C'est votre corps. Et à cause de la quantité, c'est pas votre matière. La matière n'est pas lourde, c'est la quantité. Et donc, l'individu, le sujet, qui est le premier individu, implique la quantité qui me sépare des autres et qui met l'unité dans la complexité de mon être. Mon premier comment, mon conditionnement substantiel, il est toujours dans la quantité. Il se manifeste quantitativement. C'est ça qu'il manifeste. Et là, je comprends ce qu'est la substance dans son effet premier à travers le monde matériel, à travers la causalité matérielle. J'ai la substance individuée. Ça n'existe que pour l'homme. Le théologien surnaturel parle de l'ange. L'ange n'est pas individué par la matière, il est individué par la forme. C'est dans ce sens-là que Platon est angélique, que Don Scott est angélique, et que saint Thomas est réaliste. C'est pour ça que les matérialistes, comme les marxistes, aiment Aristote. Aristote est édité en chinois, et tout Aristote est édité en chinois. C'est le théologien qu'on accepte et qu'on reconnaît, pas Platon, Aristote. J'ai vu l'édition chinoise d'Aristote. Intéressant de regarder ça. Vous comprenez parce que vous comprenez Aristote, et à la part Aristote, vous comprenez le chinois. C'est Aristote qui est individué. Individualise pas le caractère propre, quantitatif. Alors, vous comprenez l'autre matière, la substance, considérée en elle-même. En tant que connu, en tant que connaissable, c'est la substance relative à la quidité, l'intelligibilité de ce principe, pris en lui-même, non plus comme principe, mais pris en tant qu'intelligé. Vous avez la substance seconde, homme. Voyez les deux conditionnements. Le conditionnement par la matière et la quantité. Et le conditionnement par le fait d'être connu. L'intelligence, quand elle connaît quelque chose, elle l'individualise. Elle l'individualise. Et le fruit de cette individualisation, c'est la substance seconde. C'est l'universel. Homme est universel. Pierre est singulier. Tous les deux sont substantiels. Mais l'un est substantiel comme individu. L'autre est substantiel comme universel. Et l'universel fait le lien entre les deux. Et il s'oppose, droite et gauche. Vous voyez ? Et pour vous montrer que lorsque je regarde le principe substance, principe propre de ce qui est, en tant qu'être, je vois tout de suite que ce principe se manifeste à moi de deux manières. Il se manifeste dans la quantité, dans la matière, il se manifeste dans l'intelligence. C'est curieux de voir substance seconde, substance première, les deux manières dont j'individualise la substance principe. Vous comprenez qu'il y a une individuation qui se fait par la matière, il y a une individuation qui se fait par l'esprit, par l'universel. Du fait même que c'est universel, c'est individué d'une façon tout à fait particulière dans le point de vue de l'intelligence. Égal de droite, égal de gauche. Pouvez-nous dire quelque chose du rapport entre la substance et la matière? Donc c'est tout le problème de la substance individualisée. Et ce problème n'existe que pour la substance. Hein. C'est la substance qui est individualisée. C'est pas un accident. Vous êtes très intelligent, vous n'êtes pas individualisé par votre intelligence. Mais vous êtes individualisé par votre corps. Votre intelligence vous permet au contraire de rencontrer des réalités, des personnes qui sont tout autres que vous. Tandis que votre corps, il vous individualise, met tout de suite l'opposition avec un autre individualisé à sa manière. C'est le concret. Puis-je parler de substance pour ce qui est non vivant? Personnellement, je crois que les vivants, de la philosophie du vivant, que nous constatons, tous les vivants, que nous pouvons avoir l'expérience, leur donner la main, c'est-à-dire leurs pieds. Les vivants, on parle de nature et pas substance. Est-ce qu'un crapaud est une substance? Posez-vous la question, mais ne restez pas trop longtemps devant cette question, parce que vous ne pourrez pas y répondre. Est-ce qu'un crapaud a une substance? Non. Il n'a pas d'être autonome. Il est toujours dépendant de la famille crapaud. Parce qu'il y a une famille crapaud. En tant qu'individu, oui, en tant qu'individu vivant, je suis dépendant de la famille des vivants qui sont des hommes. Il y a un milieu humain qui fait que je suis toujours dépendant de ce milieu. Je crois vraiment qu'on ne peut pas parler de substance pour un individu. On peut parler d'une nature. Enfin, est-il juste de dire que la substance est principe de l'être, comme l'âme est principe de vie pour le vivant? Oui, c'est exact que la substance est principe propre de l'être. De l'être, de tel être, de cet être particulier, pas de l'être en soi. L'être en soi, il n'existe pas. Cherchez bien, vous ne le trouverez jamais. Vous avez, par l'intelligence, vous connaissez tel être particulier, tel être concret. Alors, la substance est principe propre de ce qui est en tant qu'être. Voilà ce qu'il faut dire. Ce qui est en tant qu'être, pas de l'être. L'âme est principe de vie pour le vivant. C'est la même chose. L'âme est principe propre du vivant. Principe propre de sa vie. Ce par quoi ce vivant concret vit. Vous êtes un vivant. Votre vie, c'est votre âme. C'est par votre âme que vous vivez. C'est le co. Et le vivant, c'est le quod. En termes classiques de philosophie de saint Thomas, c'est le co et le quod. Ce par quoi on est vivant. Le quod, c'est le concret. C'est le vivant qui est vivant, ce vivant. Alors l'âme est principe de ce vivant, ce par quoi il est vivant. Et dans l'homme, l'âme est substance, principe de son être. L'âme est toujours principe de notre devenir, parce que notre être, il est dans notre devenir, est toujours lié à notre devenir, et cependant notre être est radicalement libre du devenir. À la mort, le devenir cesse, et ce qui est se sépare de ce mode particulier, de celui qui doit croître. Donc la mort, c'est faire la séparation de l'être par rapport au devenir se manifeste. Et elle ne se manifeste que par la mort. Qu'à la mort. Dans le vivant, tout ce qui est devient. Vous n'avez rien en vous. Vous ne pouvez rien saisir en vous sans le devenir. Même au point de vue de l'intelligence. Votre intelligence est toujours liée au devenir et à l'être. Et par l'être, ce devenir est intelligible. Vous n'avez jamais saisi l'être pur. On dirait saisir, ce serait la saisie de Dieu. Il n'y a pas de devenir en Dieu. Alors vous voyez, si vous ne faites pas de distinction entre l'être et le devenir, vous direz que Dieu aussi devient. Vous direz que Dieu est dans le devenir. Et que Dieu est dans l'évolution. Alors vous serez en contradiction avec l'écriture. Je suis non mutor. Je ne cherche pas. Dieu dit ça, non mutor. Bon. Alors, une fois qu'on a saisi la substance, une fois qu'on a saisi que la substance nous manifeste l'autonomie dans l'ordre de l'être, que cette substance, par rapport à la matière, est une substance qui s'individualise. Elle s'individualise dans son principe, tout en demeurant principe. Ça, c'est très curieux. Et elle reste principe. Et elle est source du devenir. Et il n'y a pas séparation entre devenir et être. Comme Parménide. Il fait de la distinction et une séparation. Je distingue le devenir de l'être. La métaphysique regarde l'être en tant qu'être. Et l'histoire regarde le devenir comme devenir. C'est pour ça que l'histoire ne peut jamais saisir de premier. Une fois que j'ai regardé la substance individuelle, la substance formelle, substance première, substance seconde, je vais maintenant regarder, pour mieux comprendre ce que c'est que la substance, comment l'être se manifeste à moi à travers le devenir. C'est intéressant, ça. On n'est plus dans la métaphysique tout à fait pure. On est dans la métaphysique en tant qu'elle se manifeste à nous. D'où la tentation très grande de rester, non pas en métaphysique, mais de rester dans ce qui se manifeste à moi. Donc, de rester dans ce qui est connu. Je vais donc essayer, à travers et par la substance, de voir toutes les modalités de l'être. C'est-à-dire de voir les fondements propres des prédicaments. Les prédicaments, comme le nom l'indique, expriment ce qui se manifeste, ce qui est attribuable. Pierre est homme. C'est attribuable. Pierre est intelligent. Pierre est en contact avec Paul. En relation. Tous les prédicaments. Les prédicaments ne sont pas au niveau métaphysique. Ils sont au niveau prédicamental. Alors, prédicamental, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire attribuer. Donc, c'est tout simplement, je peux faire ça très facilement, avec n'importe quel article de journal, noter les diverses attributions. Faites-le, du reste. C'est amusant à faire. Ça vous détendra. Prenez n'importe quel livre. Voyez que le langage est une série d'attributions. Un cours, une série d'attributions. Et ces attributions ont été cataloguées par Aristote. Je crois bien. On ne sait pas exactement. On sait qu'Aristote s'en sert. Est-ce que c'est antérieur ? Est-ce que c'était donné comme une donnée tout à fait première ? Les prédicaments, les 10 prédicaments qu'on doit savoir par cœur, c'est pas de la philosophie, c'est pré-philosophique. C'est parti d'une réflexion sur la parole. Et je crois que c'est vrai pour telle langue, pour telle culture. Je crois qu'il y a partout des attributions. La substance, la qualité, la quantité. On vous demandera ça à l'examen. Dites-moi les 10 prédicaments. Puis si vous n'avez pas, on dira, dommage, hein, c'est élémentaire. Il faut le savoir, ça. La substance, la qualité, la quantité, la relation, l'action, la passion, et ainsi de suite. Je sais. Il y en a 10. Alors, au fond, nous allons regarder le fondement métaphysique des prédicaments. Pour voir que les prédicaments, c'est pas quelque chose de facultatif. Non. C'est quelque chose qui est nécessaire. Puis mon premier prédicament, la quantité. Il a déjà été traité par le point de vue de l'individuation. Donc, vous voyez, je regarde la substance éclairant la quantité. Et je regarde la quantité manifestant la substance dans l'individu. Un individu ne peut pas se comprendre uniquement par la substance. Il se comprend aussi par la quantité. Donc la quantité fait partie de ce mode spécial de l'être matériel qui est quantifié. Ça va très loin, ça. Parce que toute la science qui mesure la réalité, qui mesure ce qu'on doit connaître d'une façon ou d'une autre, elle le mesure toujours. Cette mensuration me fait comprendre sa quantité. La quantité apparaît comme ce qui est nécessaire à la transformation d'une chose. Ça rend cette chose mesurable, divisible. Qu'est-ce que c'est que la quantité ? C'est l'introduction du divisible dans l'être.